Chapitre 22. Dans tout ce qui arrive à Paul à Jérusalem, il n'est pas difficile de discerner la main de Dieu agissant derrière la scène. Bien que la ville ait été agitée, il s'écoule suffisamment de temps pour que le chiliarque puisse intervenir avant qu'aucun coup fatal ne soit porté. Puis le fait que Paul s'adresse à lui en langue grecque crée une impression favorable. Il lui est accordé de parler à la foule en tumulte depuis les degrés de la forteresse. Enfin, le choix de Paul de s'exprimer en hébreu pour son apologie lui vaut d'être écouté dans un silence complet et avec attention. Il est bien remarquable que nous ayons deux récits détaillés de la conversion de Corneille dans les Actes. Au chapitre 10, Luc en parle comme historien. Au chapitre 11, il donne la version de Pierre. Et une troisième mention dans le chapitre 15 relate très courtement ce que Pierre en dit au concile de Jérusalem. De même, nous avons trois récits de la conversion de Paul. Au chapitre 9, Luc s'exprime en historien, puis il rapporte comment Paul la raconte, au chapitre 22 à ceux de son peuple, et au chapitre 26 aux dignitaires d'entre les gentils. Les deux conversions ont fait époque et ont une très grande signification. Dans le premier cas, il s'agit de l'appel clair et formel des gentils, par l'Évangile, aux mêmes bénédictions que les Juifs et dans les mêmes termes. Dans le second, c'est l'appel de celui qui avait été le persécuteur type pour être l'instrument principal de la diffusion de l'Évangile parmi les nations dans le monde. Lorsque nous lisons ce récit du chapitre 22, nous sommes frappés par l'habileté avec laquelle Dieu donne à Paul de s'exprimer. Il commence par retracer ce qu'il avait été dans sa jeunesse, lorsque son mode de vie répondait entièrement à leurs pensées. Il était irréprochable quant à sa généalogie, son éducation, son zèle et la haine qu'il portait aux chrétiens. C'est alors qu'il y avait eu une intervention du ciel qui manifestement venait de Dieu. Certes, toute vraie conversion résulte d'un acte de Dieu, mais généralement par l'intermédiaire d'un instrument humain. Et seule la foi discerne l'acte divin. Dans le cas de Paul, il n'y a pas eu d'instrument humain, mais plutôt quelque chose de tout à fait surnaturel, faisant appel à la fois à la vue et à l'ouïe, une grande lumière et une voix puissante, qui l'a fait tomber sur le sol. Il rapporte ce fait de manière à faire comprendre à ses auditeurs que le changement qui s'était produit en lui, ce changement qui les offensait tant, avait été opéré par Dieu. La voix qu'il avait arrêtée était celle de Jésus, et c'est dans ce passage que nous est révélé le contenu exact du message adressé par cette voix venue du ciel. « Je suis Jésus, le Nazaréen, que tu persécutes. » Cette expression n'apparaît ni au chapitre 9, ni lorsqu'il parle à des gentils au chapitre 26, mais elle prend toute sa signification ici où il est en face de Juifs. Ces derniers l'avaient ajouté à son nom, comme marque de mépris et d'opprobre. Et maintenant, ce Jésus, le Nazaréen, est dans le ciel. Que cela nous serve d'avertissement. Ne disséquons pas avec rigueur et légèreté les noms et les titres de notre Seigneur, bien qu'il soit très utile de discerner la signification de chacun d'entre eux. Nous nous serions attendus à ce qu'ils disent « Je suis celui qui, dans les jours de ma chair, était Jésus le Nazaréen ». Attachant ce nom exclusivement au moment où il était ici-bas. Or, il ne dit pas « j'étais », mais « je suis ». Il ne se dépouille pas de ses noms, car il est un et indivisible. Paul présente sa conversion comme ayant été opérée par Dieu seul, et pourtant il rapporte comment Dieu s'est servi d'Ananias pour lui rendre la vue et pour lui communiquer l'appel à être un témoin et à être baptisé. Il met aussi l'accent sur le fait que cet Ananias était un membre engagé et très respecté de la communauté juive à Damas. Remarquons que Paul devait à la fois voir le Sauveur glorifié et entendre sa voix. Et c'est de ce qu'il avait vu et entendu qu'il était appelé à rendre témoignage. Aussi, lorsqu'il parle de l'Évangile qu'il annonce, il le nomme l'Évangile de la gloire du Christ. Relevons aussi que le lavage et la purification des péchés sont liés ici, comme ils l'ont été au chapitre 2, verset 38, et comme ils l'étaient dans le baptême de Jean. Ananias ajoute « invoquant son nom » pour montrer qu'il parle du baptême chrétien et non pas de celui de Jean. Le baptême revêt une signification toute particulière en relation avec les Juifs, et cela explique la place prédominante qu'il a eue le jour de la Pentecôte et dans le cas de Paul. Ceux qui rejetaient Christ doivent courber la tête et descendre symboliquement dans la mort, confessant son nom. Ils montraient par là qu'ils se soumettaient à celui dont ils ne voulaient pas. C'est seulement ainsi qu'ils pouvaient être lavés de leurs péchés. Paul relate ensuite ce qui s'est passé pendant leur première courte visite à Jérusalem, mentionnée au chapitre 9, verset 26. Ni ce chapitre 9, ni Galates 1 ne font allusion à cette vision. Il n'en est parlé qu'ici. Il est remarquable que tant l'apôtre Pierre que l'apôtre Paul aient été en extase ou aient eu une vision quant à leur service envers les gentils. Pierre, afin d'être amené à passer par-dessus les coutumes juives et à ouvrir le royaume aux gentils, Paul, pour qu'il fasse de l'évangélisation l'œuvre de sa vie. Il était ainsi doublement établi que l'introduction des gentils était selon la volonté et le propos délibéré de Dieu. En raison de son passé, Paul se sentait particulièrement appelé à évangéliser sa propre nation. Il le dit même au Seigneur, mais seulement pour s'entendre répondre que les Juifs ne recevraient pas le témoignage de ses lèvres et qu'ils seraient envoyés au loin vers les nations. Il rapporte tout cela au peuple. Et, à la lecture de ce récit, nous sentons la persuasion qui se dégageait de ses paroles. Estimait-il qu'au moins quelques-uns de ceux de sa nation devaient être convaincus? Pourtant, la parole du Seigneur prononcée quelque 21 ans auparavant demeurait « Ils ne recevront pas ton témoignage à mon égard. » Et cela avait été confirmé par un message particulier du Saint-Esprit lui disant de ne pas monter à Jérusalem. Les paroles du Seigneur étaient en train de se vérifier. La mention que les gentils étaient devenus les objets de la grâce divine soulève la fureur de ses auditeurs. Ils ne veulent pas recevoir ces paroles. Ils réclament sa mort avec une violence presque incontrôlée. Lorsque Paul accomplit la mission que Dieu lui a confiée envers les gentils, il a la joie d'être employé pour atteindre le résidu selon l'élection de la grâce d'entre son propre peuple. Lorsqu'il se détourne de ce service et concentre son attention sur sa nation, ses paroles ne portent pas de fruits en bénédiction. La fureur de la foule, et ceci malgré l'emploi de la langue hébreu, déconcerte le chiliarque. Et à cette époque, la mise à la question par le fouet était le moyen reconnu pour apprendre la vérité. Paul y échappe en mentionnant qu'il est citoyen romain et, sous la main de Dieu, il a ainsi l'occasion d'étendre son témoignage aux principaux de sa nation. Le chiliarque ordonne que le Sanhédrin soit convoqué le lendemain.